Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. L'esplanade des mosquées à Jérusalem, théâtre de heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens. Il y a plus de 150 blessés. Nous y reviendrons avec le président de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, François Leroux. L'ONU octroie 100 millions de dollars pour lutter contre la faim dans 6 pays africains et au Yémen. J-9 avant l'élection présidentielle en France. Comment ce scrutin est-il appréhendé en Algérie? Notre invité sera le journaliste et écrivain algérien Adeline Mehdi. À quoi pourrait ressembler la présidence de Marine Le Pen si elle était élue? Question posée à l'invité de Pluriel à 19h. Carl Olive, maire de Poissy, vice-président du conseil départemental des Yvelines, président de Génération Terrain. Extrait dans votre édition. Le 51e jour de l'agression russe en Ukraine, au lendemain du naufrage de son vaisseau amiral en mer Noire, la Russie a menacé aujourd'hui d'intensifier ses attaques sur Kiev. Des heurts ont eu lieu aujourd'hui entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Il y a plus de 150 blessés. Un responsable du Croissant Rouge palestinien fait état de 117 blessés transférés dans des hôpitaux de Jérusalem et des dizaines d'autres traités sur le site de l'esplanade. Ces affrontements sur l'esplanade des mosquées sont les premiers cette année depuis le début du Ramadan, période de grand rassemblement pour les musulmans sur ce lieu sacré. Gros plan sur cette situation avec le président de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, François Leroux.
Il faut contextualiser par rapport à l'oppression que subissent les Palestiniens, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, Jérusalem-Est, la dépossession dont ils sont l'objet, et avec des menaces très fortes, notamment dans les quartiers de Jérusalem, que Silwan ou Sheikh Jarrah. Donc c'est dans ce contexte qu'il y a une révolte qui couve depuis un petit moment et qui s'exprime. En plus, c'est le mois de Ramadan, c'est un vendredi, et ça vient après une répression importante qui a eu lieu dans toute la Cisjordanie en particulier, avec des morts notamment à Jenin, à Naplouse ou à Bethléem. C'est dans ce contexte que se produit cette révolte des Palestiniens et de cette répression qui s'aggrave, et avec M. Bennett, le Premier ministre, qui lâche la bride en quelque sorte pour ses forces de sécurité et d'occupation, puisque là c'est Jérusalem-Est est un territoire occupé, puisqu'il a indiqué qu'il donne une liberté d'action totale pour son armée.
Et vous craignez aujourd'hui une extension de ces violences?
Ça nous rappelle un peu, il y a un an, il y a eu une révolte pendant 11 jours, et qui a été donc réprimée dans le sang, puisque il y a eu un embrasement, puisque les Palestiniens, donc on a appelé ça une intifada de l'unité, se sont soulevés, si vous voulez, et notamment la jeunesse, y compris à Gaza, aux côtés de ceux de Jérusalem qui étaient menacés, notamment à Sheikh Jarrah, et avec des provocations israéliennes à la porte de Damas et des attaques sur les standards des mosquées, puisqu'il y a même eu des grenades lacrymogènes qui ont été lancées dans la mosquée. Donc un scénario similaire à celui de l'année dernière, peut-être, mais peut-être pas. Donc nous on espère, c'est le moins de morts possible et de blessés et destruction des civils et des deux côtés. Les civils, tout acte contre les civils est condamnable, mais il y a une telle superpuissance d'un côté et un peuple qui n'a pas les moyens vraiment militaires de résister. Donc il y a d'abord une résistance civile.
Pour éviter cet embrasement, quel appel lancez-vous à la communauté internationale aujourd'hui?
Notre pays, la France et l'Union européenne, dont nous faisons partie, c'est d'arrêter ce deux poids deux mesures et ce double standard qui est d'autant plus flagrant avec ce qui se passe en Ukraine. Donc, évidemment, ça parle beaucoup, l'Ukraine aux Palestiniens, parce qu'il y a une occupation, il y a une agression russe, il y a une annexion déjà d'une partie de l'Ukraine. Bon, il y avait la Crimée, il y a le Donbass, il y a deux républiques qui ont été annexées, Donetsk et Donbass. Et là, il y a un soutien important de l'Europe, dont la France, aux côtés des Ukrainiens. On aimerait que, face à l'occupation et l'annexion israélienne, de juré ou de facto, il y a le même soutien, toujours sur la base du droit international, évidemment. Donc c'est ce que nous demandons à nos dirigeants, et qu'ils ne reprennent pas le narratif israélien et pas d'inversion des rôles et des responsabilités. Dans la dernière, parce que là il y a la dernière séquence, avec des attentats de Palestiniens en Israël, contre des civils donc que l'on condamne sans hésitation, il y a des mesures simples qui sont même pas du boycott, ni du désinvestissement, ni mais simplement qui devrait être déjà appliqué, c'est l'interdiction de l'importation des produits des colonies. Donc la France ne doit arrêter cette complicité qui est délétère, puisqu'elle elle encourage la politique israélienne d'occupation, d'annexion. Voilà.
Le président de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, François Leroux. Les autorités palestiniennes ont annoncé hier la mort de 3 Palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée, là où Israël dit mener depuis près d'une semaine des opérations de contre-terrorisme après des attaques meurtrières dans la métropole de Tel Aviv. L'ONU octroie 100 millions de dollars pour lutter contre la faim dans 6 pays africains et au Yémen. Parmi ces pays, la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya, le Soudan du Sud et le Nigeria. Il s'agit de fournir une aide alimentaire, monétaire et nutritionnelle essentielle, ainsi que d'autres formes d'assistance, notamment des services médicaux, des abris et de l'eau potable. Au lendemain du naufrage de son vaisseau amiral en mer Noire, la Russie a menacé aujourd'hui d'intensifier ses attaques sur Kiev, Moscou qui a accusé l'Ukraine de bombarder des villages sur son territoire. L'Ukraine où 5 personnes ont été tuées dans le Donbass, dans l'est du pays, au cours des dernières 24 heures, tandis que des explosions ont retenti au sud de Kiev. En Tunisie, le mouvement Ennahda a salué l'initiative du président de l'instance politique du parti, Al-Amal, qui a appelé à la formation d'un front politique élargi. C'est ce qui ressort d'une déclaration d'Ennahda signée par son président, Rached Ranouchi. Ahmed Najib Chebbi avait appelé à une nouvelle initiative appelée Front de salut national, qui, selon lui, vise à sauver la Tunisie et à la remettre sur le chemin de la démocratie. L'inquiétude en Algérie après les résultats du second tour de la présidentielle en France, l'hypothèse d'une victoire de l'extrême droite avec la qualification de Marine Le Pen inquiète à la fois les autorités et le peuple algérien, comme le souligne le journaliste et écrivain algérien Adlan Mehdi. Entretien.
Quand on voit les discussions des gens, quand on voit les réseaux sociaux ici en Algérie et surtout et aussi les médias, on n'est pas très étonné par la poussée de l'extrême droite, parce que les gens ici ont bien suivi toute la montée et la campagne médiatique, d'abord électorale, ensuite de Éric Zemmour. Donc on s'attendait un peu à ce que les thèmes de l'extrême droite, l'immigration, donc l'immigration c'est qui, c'est les musulmans, c'est les Algériens, c'est les Maghrébins en général, et donc on savait très bien que on était bien conscients en Algérie que l'extrême droite allait avoir un score très important pour la présidentielle. Ça, c'était le premier. Le deuxième constat, c'est que, vous savez, avec Marine Le Pen, elle a un ADN négatif ici en Algérie. Les Algériens n'oublieront jamais que le père de Marine Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen, et c'est quelqu'un qui a torturé ici en Algérie. Donc, c'est pas des choses qui s'effacent de la mémoire collective algérienne. Et troisième point d'inquiétude ici en Algérie, c'est la France qui a déjà réduit de 50% les visas par rapport aux 3 pays du Maghreb. Les Algériens craignent que si Marine Le Pen passe pour le deuxième tour, eh bien cette politique migratoire va être encore plus resserrée et que ça va être très très compliqué de continuer à voyager normalement, ça menacerait le regroupement familial, ça menacerait les vies des familles qui vivent des deux côtés de la Méditerranée. C'est suivi avec beaucoup, beaucoup d'inquiétude ici, oui.
Vous qui êtes journaliste et écrivain, ce serait notamment un danger pour la coopération culturelle.
Pour toute la coopération, parce que déjà que les relations avec la France ne sont pas au bout fixe depuis quelques mois. Si jamais l'extrême droite prend le pouvoir, je n'ose même pas imaginer comment les relations vont se développer entre Alger et Paris, certainement de manière très très négative, beaucoup pire qu'aujourd'hui. Et donc il y a un autre vote, si on peut dire, un vote secret, un vote qui n'est pas dit, notamment dans les cercles officiels ici en Algérie. Ils préfèrent beaucoup plus un deuxième mandat de Macron, qui a déjà commencé des pas, surtout sur le dossier mémoriel. Et donc il y a une sorte de désir caché, de dire un vote caché, on va dire, pour voter Macron du point de vue des officiels aussi.
Il y a une réelle crainte également au sommet de l'État. C'est à la fois une crainte populaire en Algérie et une crainte de la part des autorités.
Vous savez, aujourd'hui, Le Drian est à Alger pour 2 jours, justement pour essayer de conforter cette reprise lente de la relation entre les deux pays qui reste encore encore fragile après des mois de tension. Et une arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France ne peut que faire exploser ça en plein vol. Donc c'est très très inquiétant sur ce point, sur ce point-là aussi.
Et la mise dos à dos de ces deux candidats à la présidentielle, cela est mal compris également en Algérie, toutes ces personnes qui envisagent de s'abstenir.
Déjà que l'abstention n'est pas très comprise en Algérie, parce que dans l'opinion générale, on se dit... Les Français ont la chance d'avoir un système démocratique réel, pas comme dans les pays du tiers-monde, entre guillemets, et ils ne votent pas. Donc c'est déjà incompréhensible que les gens n'usent pas de leur droit électoral dans un système transparent où une voix vaut une personne vraiment, réellement. Il n'y a pas de bourrage d'urne le soir en cachette dans les préfectures de France, comme ça se passe ailleurs. Donc déjà, l'abstention est incomprise. Et le fait qu'aujourd'hui, on va vers un scénario un peu catastrophe, si jamais l'abstention et si jamais le report des voix ne va pas dans le sens du président sortant, c'est vrai que cela est vu de manière très, très négative par l'opinion ici aussi.
Et l'inquiétude est nettement plus importante qu'il y a 5 ans.
Absolument, parce qu'on sent que, le match est très serré. Mais surtout, vous savez, les médias français sont très suivis ici en Algérie. Et au-delà même du résultat de la présidentielle et du premier tour, on a bien compris que le vrai danger, c'est cette incroyable et insupportable banalisation du discours haineux, raciste, islamophobe et xénophobe qui devient complètement... Voilà, on l'entend à la télé de manière complètement décomplexée. Et cela aussi... inquiète énormément les Algériens ici qui ont, pour nombre d'eux, une partie de leur vie, de leur famille en France.
Et avez-vous le sentiment que la société civile française s'implique suffisamment dans cette campagne aujourd'hui face à cette menace?
Suivant les médias français, les réseaux sociaux français et aussi via les échos qu'on a de nos proches, de nos amis qui sont en France, qui soient algériens, franco-algériens ou français, on sent bien que il y a des mouvements qui essayent de se mobiliser. On sent bien qu'il y a d'autres problématiques qui sont très très présentes de plus en plus, comme la problématique climatique. Mais on sent aussi que le ras-le-bol et la colère est très très forte en France, et sur le plan social, sur le plan du pouvoir d'achat, etc. Et que c'est cela le danger qui peut peser et qui peut gonfler l'abstention ou un vote sanction carrément.
Vous nous dites qu'il s'agit de conserver l'essentiel en fait à travers ce vote.
Oui, bien sûr, parce que l'essentiel finalement c'est quoi? L'essentiel finalement c'est que la France garde un caractère républicain. Et je pense profondément qu'un vote à l'extrême droite, déjà qui est très important, ou une victoire de Marine Le Pen menacerait vraiment le caractère républicain de la France. Et on verra des messages très très négatifs d'abord à l'Europe elle-même, qui souffre d'un problème identitaire de plus en plus face aux poussées populistes, mais aussi un message très très négatif au reste du monde, notamment le monde arabo-musulman et l'Afrique. Donc ça peut avoir des répercussions très négatives internationales pour la France aussi.
Le journaliste et écrivain algérien Adlène Mehdi. Un nouveau soutien pour Emmanuel Macron avant le second tour de la présidentielle qui l'opposera à Marine Le Pen. L'ancien président socialiste François Hollande appelle les citoyens à voter pour le président candidat au nom, dit-il, de la cohésion de la France et de son avenir européen. L'invité de Pluriel à 19h, Carl Olive, maire de Poissy, vice-président du conseil départemental des Yvelines, président de Génération Terrain, soutien du président candidat Emmanuel Macron. À quoi pourrait ressembler la présidence de Marine Le Pen si elle était élue? Il évoque la gestion de Mantes-la-Ville par le Rassemblement National jusqu'en 2020. Carl Olive.
Que nous avons eu la chance, ou plutôt la malchance, entre 2014 et 2020, d'avoir une ville dirigée par le Front National, la ville de Mantes-la-Ville. La première décision du maire a été de décréter qu'il allait supprimer les subventions pour des associations sportives qu'il jugeait communautaires. Le club de football du FC Mantois, 1200 jeunes, monsieur, 1200 jeunes, du jour au lendemain, a perdu toutes ses subventions. Il y avait trop de Noirs, il y avait trop d'Arabes. le maire FN n'a absolument pas fait dans la demi-mesure. Dans le même temps, parce que ça n'a pas été la seule décision malencontreuse qu'il a pu avoir, fermeture de la mission locale, fermeture de la vie sociale. Et là où on disait que le Front National, où on dit que le Front National serait soi-disant un maître en expertise de sécurité, il n'y a pas eu de baisse de délinquance. Il y a eu 30 policiers municipaux qui ont été recrutés, 29 sont partis. 5 différents directeurs de police municipale. C'est dire si en termes de management, il y a beaucoup de leçons de morale qui est faites par le Rassemblement National, mais quand ils sont aux travaux pratiques, ils sont très vite les diplômés du dernier rang. Et ça, c'est pas les paroles, hein. C'est vraiment ce qui se passe sur la réalité du terrain. Et regardez les archives googlisées, comme on dit aujourd'hui, vous allez retrouver tout ce que je vous dis parfaitement.
Carl Olive, maire de Poissy, vice-président du conseil départemental des Yvelines, président de Génération Terrain. Il est l'invité de Pluriel à 19h, émission présentée par Loïc Barrière. Vous êtes bien sur Radio Orient. À 21h, l'invité de rencontre sera Karima Ambar, directrice générale de la fondation Intisar, une fondation qui apporte un soutien psychologique aux femmes réfugiées dans le monde arabe. Une émission présentée par Loïc Barrière. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin après le flash de 8h pour un entretien avec le ministre tunisien du tourisme et de l'artisanat, Mohamed Mouez Belassine. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.